Un débat politique mais aussi médical sur le projet d'allongement de 12 à 14 semaines pour un recours à l'IVG. Poli et courtois, le débat des colistiers dans la course à la Maison Blanche. Une femme inspirante, la scientifique française qui vient de décrocher le Nobel de chimie. Et un footballeur inspiré, Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'équipe de France.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa Salamé.
Trop et jamais assez, comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde. C'est le titre du livre au vitriol que la nièce de Donald Trump consacre à son oncle. Le livre, sorti aux États-Unis cet été, s'est vendu à 1 million d'exemplaires en 48 heures. Interview exclusive à suivre à 7h50. Mary Trump sera avec nous.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui Jean-Pierre Jouyet, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Il publie aujourd'hui l'envers du décor dans l'intimité de nos présidents. Si les coulisses du pouvoir vous intéresse, vous pouvez nous appeler et participer au débat 01 45 24 7000.
France Inter. 18 746 nouveaux cas de Covid détectés en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie, un taux de positivité qui continue de progresser à 9,1%, 80 décès enregistrés hier. Le bilan quotidien publié hier soir par Santé publique France témoigne de la circulation active du coronavirus. De nouvelles restrictions devraient donc être annoncées dans la journée par Olivier Véran lors de son point hebdomadaire. Mais dès hier soir, le chef de l'État, lors de son déplacement dans les Alpes-Maritimes, a tenu à mettre en garde les Français.
Les annonces seront faites par le ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez raison de dire que l'épidémie continue de monter. Il y a des légers mieux dans des territoires où on a réussi par notre stratégie collective, parce que c'est là aussi toute la nation, a commencé à freiner les choses. Mais le virus circule plus vite depuis plusieurs semaines.
Et donc de nouvelles restrictions à attendre, monsieur le
président. Et donc il y aura bien sûr, dans notre stratégie, dans les endroits où ça circule trop vite, et en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées qui sont les plus vulnérables et où on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, eh bien, on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu'on a pu connaître, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône ou dans Paris et la Petite Couronne.
Et des limitations de déplacement.
Et donc, il y aura cela.
Emmanuel Macron hier soir sur France 2 et TF1. Selon nos informations, trois villes devraient donc basculer en zone d'alerte maximale. Lyon, Lille et Grenoble, peut-être aussi Saint-Étienne et Toulouse. Une décision que conteste déjà le maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet, pour qui la situation ne nécessite pas d'alerte maximale. Le taux de patients positifs au Covid en réanimation frôle les 30% à Lyon.
À la vue des dernières données d'aujourd'hui, il me semble que nous sommes encore en capacité avec à la fois les dispositifs qu'on a mis en place et l'accent mis cette semaine sur les aînés d'une part, les jeunes et en particulier les étudiants d'autre part, on est en train de prendre, me semble-t-il, les bonnes mesures complémentaires. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on a les moyens ici sur la ville, sur la métropole, pour répondre à l'évolution de l'épidémie. Pas la peine d'aller plus loin. Au contraire, responsabilisons davantage si on veut prendre des mesures complémentaires.
Grégory Doucet au micro de Christophe Vincent. La situation s'améliore à Bordeaux et à Nice. Certains départements vont même redescendre d'un cran, notamment la Nièvre, le Lot-et-Garonne et la Mayenne. Et puis pas de restrictions de circulation pour l'instant, a dit le chef de l'État en appelant à la responsabilité de chacun. Marseille, Paris et sa petite couronne restent enfin en zone rouge écarlate. Les services de réanimation parisiens, déjà remplis à 40% par des patients Covid, savent qu'on devrait assez vite dépasser les 50%. D'où la réactivation ce matin du plan blanc, le détail dans le journal de 8h, la déprogrammation de certaines interventions et le rappel de personnel. Véronique Julia.
Pour l'instant, on gère, mais jusqu'à quand va-t-on pouvoir tenir? À l'hôpital Bichat, on est déjà à près de 50% de patients Covid en réanimation et déjà obligé d'en transférer faute de place dans d'autres hôpitaux. Dans cet établissement du nord de Paris, chaque jour, ce sont 2 à 3 nouveaux cas qui arrivent en réanimation. Une réanimation déjà remplie depuis début septembre par tout un tas de patients hors Covid. Pour faire face, on a déprogrammé depuis le début de la semaine 10% des interventions, celles qui peuvent attendre, le chef du service Jean-François Timsit.
On a déjà déprogrammé la chirurgie pas très lourde, la chirurgie bariatrique. Pour l'instant, c'est très peu, mais là, on commence à se dire qu'on va déprogrammer la chirurgie lourde. On est surtout très inquiet sur comment on va faire.
Déprogrammer, c'est la seule solution, car cette fois-ci, pas de renfort. Les bonnes volontés ont déjà donné et les autres régions elles-mêmes touchées n'enverront personne à Paris. Il faut donc gérer à effectif constant quand les équipes soignantes avaient parfois doublé de volume au printemps dernier. Alexandre Demoux est chef de réanimation à la Pitié-Salpêtrière. Il a, malgré le contexte, le souci de ménager ses effectifs.
Les équipes sont tendues et donc l'idée, c'est de ne déprogrammer les congés que si c'est absolument nécessaire. Sinon, on va avoir des vraies complications, des arrêts maladie, des burn-out liés à l'intensité du travail.
Un risque de burn-out, mais aussi d'erreurs médicales, d'autant que l'épidémie est partie pour durer plusieurs mois.
Et la chirurgie bariatrique qui pourrait être déprogrammée concerne les patients obèses. Et c'est un autre sujet de santé publique qui pourrait provoquer aujourd'hui un débat houleux à l'Assemblée. D'anciens macronistes du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité ont déposé une proposition de loi pour allonger le délai de recours à une interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines, soit 16 semaines d'aménorrhée. Le texte est examiné aujourd'hui et il provoque également, Hélène Chevalier, un débat au sein de la profession.
En France, très peu de médecins et de sages-femmes refusent actuellement de pratiquer des IVG selon une enquête auprès des agences régionales de santé. Mais le professeur Israël Nizan, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, craint que cet allongement du délai change la donne.
Dans mon service, il y a 20 praticiens hospitaliers qui tous participent. Ils m'ont dit, patron, non, nous on ne veut pas faire ça. Et ce n'est pas pour des raisons religieuses ni morales. Ils n'ont pas envie de le faire à cause de la nature du geste. C'est plus complexe, plus dangereux, plus choquant. Le fœtus est pratiquement deux fois plus grand à 16 semaines qu'à 14. Et surtout, il a une tête qui est ossifiée.
Israël Nizan estime que le problème est plutôt dans la prise en charge trop lente des femmes et réclame des moyens supplémentaires pour des IVG plus rapides. Des moyens, c'est aussi une demande du docteur Sophie Gaudu, mais le consensus entre le professeur et la responsable du centre d'IVG de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre s'arrête là.
On ne peut pas opposer le désagrément de la pratique d'un geste médical à l'avenir d'une femme. On n'est pas dans la même mesure. La suite de la grossesse, elle a quand même un enjeu autrement désagréable et potentiellement même grave, nocif pour la santé de la femme qui s'adresse à nous.
Dans son service où en moyenne 1000 IVG sont réalisées chaque année, une dizaine de femmes se présentent au-delà du délai. La gynécologue rappelle que seules celles qui en ont les moyens partent se faire avorter à l'étranger.
Et en l'absence de chiffres précis, on évalue à 2000 le nombre de femmes françaises obligées chaque année de partir à l'étranger, faute d'avoir été prises en charge dans les temps en France. Deux policiers blessés par balle cette nuit, ça s'est passé à Herblay dans le Val-d'Oise. Les agents se seraient apparemment fait voler leur arme de service. Les trois auteurs de l'attaque sont en fuite. On y revient plus en détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès. Les débats se suivent, mais ne se ressemblent pas aux États-Unis.
Après la violence et le chaos du débat Trump-Biden, le calme et la fermeté du débat Pence-Harris la nuit dernière. Les colistiers, le républicain Mike Pence et la démocrate Kamala Harris, se sont affrontés, notamment sur la gestion du Covid. Débat suivi par Benjamin Illy, envoyé spécial de France Inter à Salt Lake City.
Un mot pour résumer ce débat. Respect. Respect mutuel, de la courtoisie, des phrases complètes cette fois. Et Mike Pence qui lance à Kamala Harris. C'est un privilège d'être à vos côtés. La démocrate le remercie et le recadre rapidement à la moindre tentative d'interruption. Monsieur le vice-président, je suis en train de parler. Presque l'équivalent poli du shut up man, ferme-la, adressé à Donald Trump par Joe Biden à Cleveland. Une passe d'armes en particulier dans ce débat, son débordement, elle portait évidemment sur la crise sanitaire, le coronavirus. Kamala Harris attaque, les Américains ont assisté au plus grand échec d'une administration présidentielle dans l'histoire de notre pays, 210 000 morts. Mike Pence répond, dès le premier jour, le président a mis la santé de l'Amérique au premier plan, il a suspendu tous les voyages depuis la Chine, la deuxième économie du monde, et il a sauvé des centaines de milliers de vies. C'est franc, c'est direct, mais pas d'insultes, juste de la politique. Sauf que Donald Trump n'a pas pu s'empêcher d'apporter sa touche personnelle. Dans un tweet, il a commenté le débat. Selon lui, Mike Pence s'en est très bien sorti. Mais elle, Kamala Harris, c'est une machine à baffe, dit le président.
Et pourtant, selon un sondage post-débat de la chaîne CNN, Kamala Harris a convaincu 58% des téléspectateurs américains contre 38% pour Mike Pence. C'était un reportage de Benjamin Illy. C'est une scientifique française de 51 ans, Emmanuelle Charpentier, qui avec sa collègue américaine Jennifer Doudna, âgée de 56 ans, a décroché hier le prix Nobel de chimie. Leurs travaux représentent une avancée révolutionnaire dans le traitement des maladies génétiques. Et c'est aussi un signal très fort pour les jeunes filles. Alexandra Palt dirige la Fondation L'Oréal, qui avait distingué les deux chercheuses il y a 5 ans.
On voit qu'il y a un changement dans les stéréotypes. Vous savez que pendant longtemps qu'on demandait aux enfants à l'école de dessiner un scientifique, les enfants dessinaient automatiquement un garçon. Ça évolue maintenant. Il y a de plus en plus de femmes. Il y a ces modèles féminins qui inspirent aussi une génération. Malheureusement, depuis la création des prix Nobel en 1901, on a 621 scientifiques récompensés en physique, chimie et médecine, et il y avait seulement 22 femmes.
Un propos recueilli par Sophie Becherel place aujourd'hui au prix Nobel de littérature qui sera attribué à Stockholm. Le tournoi de tennis de Roland-Garros, c'est une qualification dans la douleur pour Novak Djokovic qui affrontera en demi-finale le grec Stefanos Tsitsipas. Au programme aujourd'hui, les demi-finales dames, la polonaise Iga Świątek face à l'argentine Nadia Podoroska et la tchèque Petra Kvitová face à l'américaine Sofia Kenin. Enfin, la belle soirée de l'équipe de France de football, 7-1 en match amical face à l'Ukraine hier soir au Stade de France. Une soirée remarquable à plus d'un titre. Premier but de Kamavinga sous le maillot des Bleus. Plus jeune buteur de l'après-guerre, il n'a pas 18 ans. But aussi de Mbappé, Griezmann, Tolisso et un doublé d'Olivier Giroud qui devient le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France devant Michel Platini, mais toujours derrière Thierry Henry. Cédric Guillou.
Cela fait donc 42 fois qu'un speaker annonce le nom d'Olivier Giroud, buteur chez les Bleus. Une unité de plus que Michel Platini.
J'ai ressenti beaucoup de fierté et bien sûr j'ai pensé à Platini quand j'ai marqué.
Pascal, supporter des champions du monde, était présent hier soir au Stade de France pour voir Giroud dépasser la légende Platini.
Alors il y avait moins de matchs à l'époque, moi j'ai bien connu, c'était mon idole d'enfance Michel Platini. C'était pas un attaquant comme Olivier Giroud, mais c'est vrai que voilà, après Platini, il y a d'autres critères aussi. Il y a 9 buts en 5 matchs dans un euro. C'était un peu plus compliqué peut-être de marquer aussi.
L'attaquant de 34 ans de Chelsea qui fêtait sa 100e sélection en bleu hier soir avec le brassard de capitaine voit désormais plus loin le record de Thierry Henry, 51 buts en bleu.
Je suis optimiste pour me rapprocher le plus possible de lui. Mais c'est quand même, on parle de 9 buts à marquer encore.
Le défi est lancé pour Olivier Giroud qui pourrait jouer une dizaine de matchs avec les Bleus avant le championnat d'Europe de l'an prochain.
Et prochain match justement pour les Bleus, ce sera dimanche face au Portugal en Ligue des Nations.